Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui. L'émission numéro 121. Christophe Rollin au micro, toute la fine équipe est là. Gérald, ainsi qu'Isa. Et nous avons un invité. Je l'ai annoncé sur le blog. Après Mathis, la semaine dernière, Laurent Caragueusian est présent avec nous aujourd'hui. Oui, oui, on peut faire le rapprochement. Henri Matisse, très très bien, peintre très connu. Laurent Caragueusian, peintre qui est déjà très connu, qui le sera davantage grâce à l'émission, certainement, puisqu'elle sera... il va nous parler pendant toute cette émission de son art un peu particulier, à base de clair-obscur, enfin différentes choses, photographie, enfin bref. C'est lui qui saura certainement mieux dire les choses que moi. Nous allons commencer avec de la musique qui nous a remise. Donc, programmation musicale pour ce début d'émission assurée par notre invité. C'est Philippe Glass avec Ravi Shankar, ou même c'est plutôt Ravi Shankar avec Philippe Glass pour l'album Passage. Et nous allons écouter le premier titre, Offering. C'est un petit peu long, mais nous couperons de manière à entendre, à bien écouter notre invité jusqu'à 15h comme tous les mercredis, 14h05. Ah, on a commencé un peu en retard, mais Gérald, est-ce qu'on gagnera du temps puisque le Blues et Canu n'aura pas lieu ensuite? Non, nous ne ferons pas ça. Pour l'instant, vous nous écoutez sur Radio Canu, c'est le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien radiocanu.org. Et nous commençons avec Ravi Shankar et Philippe Glass.
Auditeurs, bonjour Laurent Caragueusian, bonjour Christophe et bonjour Isa.
Salut tout le monde.
Nous écoutions à l'instant donc le premier opus de l'album Passage, Offering, qui durait 9:41. On était obligé de le réduire. Donc un duo avec Ravi Shankar et Philippe Glass. qui a l'air très très intéressant cet album. Pourquoi ce choix?
Moi j'ai un certain goût pour cette musique américaine dite minimaliste. Moins maintenant, mais parfois, pendant que je travaillais dans l'atelier, ça a été un peu un carburant. Au niveau de l'ambiance que ça dégage, et puis aussi au niveau du mixage des influences entre musique orientale et musique américaine. C'est un très bel album, oui.
Un côté méditatif qui ouvre l'esprit.
Tout à fait.
Nécessaire par rapport au travail plastique que vous faites. Il y a des points communs.
Oui, on a toujours un peu envie de chercher des liens entre différents types d'art, entre la musique et les arts visuels. Donc effectivement, c'est oui. Et puis, quand on peint, quand on dessine, les yeux sont pris, mais l'oreille reste disponible.
L'oreille écoute.
L'oreille écoute.
Et l'œil regarde.
C'est ça.
Ou l'oreille... L'œil écoute et l'oreille... Bon. Alors, monsieur Karagözian, vous n'êtes pas tout jeune, mais vous n'êtes pas tout vieux non plus. On a beaucoup de points communs. Vous pouvez nous parler peut-être un peu de vous, un bref portrait rapide de pourquoi, comment, qui êtes-vous, comment êtes-vous devenu artiste.
Où est-ce que tout commence, hein?
Ah oui, où est-ce que tout commence? Alors ça, c'est une grande, longue question.
Votre existence physique, c'est à Rouen, hein, voilà, on peut le dire.
Oui, alors effectivement, je suis né à Rouen, voilà, donc j'ai fait mes études de. Avant le bac, toutes mes études avant le bac dans la région de Rouen. Et puis ensuite, j'ai commencé une faculté d'art plastique à Saint-Étienne. Voilà, j'ai commencé et j'ai d'ailleurs, j'y suis resté pas mal d'années. Parce que je m'y plaisais bien, parce que c'était un cadre d'apprentissage qui était très riche, très intéressant. Et ça m'a permis d'accéder à un rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit, enfin... Déjà, à l'école primaire, je faisais pas mal de dessins, comme je pense beaucoup de gens qui se destinent à ça. Je crois que le goût à ça arrive très très tôt. Et pour la petite histoire, c'est vrai que quand j'étais à l'école primaire, j'avais dessiné la fée de Pinocchio. Et les camarades de classe prétendaient que j'avais décalqué aux insultes suprêmes pour un dessinateur, parce que effectivement, je l'avais pas décalqué. C'était un travail d'observation. C'était à la fois flatteur et à la fois agaçant de penser que voilà. Ça, c'est pour la petite histoire.
Oui, je t'en prie, Isa. Oui.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans le dessin? Est-ce que c'est la représentation des choses qui vous intéressait déjà quand vous étiez petit ou...
Ce qui m'a intéressé, c'est que je pense que les outils peuvent être d'une incroyable simplicité, et ce qui peut en jaillir peut être un univers complètement incroyable. Et je pense que ça, on comprend très tôt si on a entre guillemets un certain pouvoir avec un crayon, on peut lui faire dire des choses, ou si pour certains enfants ça va être plus pénible ou plus difficile. Et puis je pense aussi qu'il y a une deuxième chose, c'est que je suis un incorrigible gaucher, et en fait quand on écrit forcément notre mode d'écriture occidentale est de gauche à droite, et rapidement je me suis rendu compte qu'un dessin, on pouvait l'attaquer par n'importe quelle partie de la feuille, par n'importe quel morceau, donc tout un univers peut se créer autour d'une ligne. Donc je pense que c'est ça le goût que j'avais très vite pour le dessin.
C'était un espace de liberté que vous vouliez avoir par rapport à peut-être au fait d'être contraint par l'écriture, peut-être que le fait de pouvoir dessiner comme on veut, c'était une liberté.
Oui, je pense. Pas, ouais. Oui.
Donc vrai gauche, pas contrarié, hein. Vous avez appris à écrire
non,
la main gauche.
Non, j'ai pas été contrarié, non. Non, je suis pas encore si vieux que ça.
Et est-ce que vous vous surpreniez parfois, quand vous faisiez vos dessins, est-ce qu'il y en a qui vous surprenaient? Est-ce que il vous arrivait de faire des dessins que vous imaginiez pas faire?
Ah, très très juste, Isa, on dirait que tu as bien lu le blog, le site, que dis-je, de Laurent, que j'ai bien indiqué en référence. Vous avez cette phrase, ce n'est pas vous qui établissez la forme, c'est plutôt la forme qui vous guide, je crois.
Oui, disons que c'était une façon peut-être aussi un petit peu de paraphraser donc un artiste dont vous avez parlé en début d'émission, qui est Matisse, qui disait lui-même quelque chose du genre ce n'est pas ma main qui guide la ligne, c'est la ligne qui guide ma main. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'a longtemps travaillé cette question. Et effectivement, à un moment donné, effectivement, on peut se laisser surprendre par cette ligne et en tirer avantage. C'est pas une ligne, c'est pas une recherche de perfection. Peut-être que c'est plutôt effectivement une recherche de liberté à travers cette ligne qui va surprendre. Et puis il y a aussi cette dimension de hasard, moi que j'aime bien solliciter, un peu exciter dans le dessin, que tout ne soit pas joué d'avance. Sinon, ça sert à rien de faire un dessin, quoi. Si on sait tout de suite tout ce qui va se passer, ce serait trop triste, quoi.
Beaucoup d'artistes font ça depuis un certain temps maintenant, c'est-à-dire que tout est prévu. La surprise est quand même limitée puisque le programme est totalement prédéterminé. Et bon, certains artistes, même dans l'art conceptuel, où se passe d'œuvre, où l'œuvre est tellement faite par d'autres, oui. Elle est tellement préconçue qu'il n'y a plus justement cette dimension de surprise. Dont parlait d'ailleurs du buffet de la même manière, en disant qu'il fallait, le matériau est un langage, il rejoint Matisse pour ça, et on peut, les plasticiens doivent se laisser surprendre par ce qui se passe, l'accident, le hasard, et sa vie, une peinture, ou une œuvre.
C'est peut-être même ça qui permet d'être finalement, peut-être voilà, créatif, c'est de se laisser porter par ce qu'on fait, et de peut-être pas calculer.
Oui, alors après, c'est vrai aussi que moi j'ai essayé de créer des petits rituels autour du dessin, par exemple, depuis quelques temps, où je m'amuse à créer des situations de hasard, c'est-à-dire par exemple, j'ai fait toute une série avec de l'adhésif, et donc je peins dans les interstices. Donc je me sers un peu de l'adhésif comme d'un matériau de masquage. Je peins dans les interstices. D'ailleurs j'ai amené aussi sur le plateau, alors c'est vrai que les auditeurs ne pourront pas voir.
Privilège des animateurs, heureusement qu'on a quand même ça.
C'est une œuvre originale, hein, qu'on peut se faire passer. On voit bien les marques d'adhésif d'ailleurs.
Et donc voilà, effectivement, tout à fait Gérald, je me sers de l'adhésif à la fois pour masquer et à la fois également pour arracher des zones. Donc c'est un dessin qui est toujours un peu en train de se modifier, c'est une sorte de métamorphose. D'ailleurs on rejoint peut-être un peu, tout à l'heure on parlait de Philippe Glass, je crois qu'il y a des titres qui s'appellent Métamorphose, donc voilà.
Et alors oui, très juste, certainement au début, avant de faire l'œuvre, vous ne savez pas à quoi le résultat pourra ressembler.
Alors,
petite idée peut-être.
C'est-à-dire que j'ai, je travaille sur le paysage depuis donc, la fin de mes études, puisque j'avais fait un diplôme d'études approfondies, un DEA, sur all over et végétation.
Quel est ce terme, all over? Ça veut dire quoi? Tout,
non, alors, tout autour, c'est quoi, l'idée de alors, je ne sais pas si comment ça se traduirait vraiment, mais voilà, une sorte de... On recouvre, toute la surface est recouverte, moi je
et c'est l'idée ça. Qu'en fait, il n'y a pas de centre d'attention prégnant ou plus important qu'un autre, c'est comme une tapisserie dont on prélèverait un fragment, c'est voilà. L'idée que tout continue de tous les côtés.
Voilà, tout continue. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'effectivement, ça peut se prolonger en dehors du cadre. Et cette... je ne sais plus.
Et le deuxième titre était « Et végétation ».
Voilà. Voilà, c'est ça, exactement, merci. C'est ça, donc... Parce que moi, ce thème du végétal, c'est un thème que je travaille donc depuis de longues années. Donc, c'est un thème qui est quelque part qui est imprégné en moi. Et je sais que maintenant, je peux commencer par n'importe quel bout un dessin. Je sais que je vais revenir aux branchages, aux arbres. Ça va revenir quoi que je fasse. C'est-à-dire dans quelques situations que je me mette au départ, quel que soit le rituel de départ, que ce soit du scotch, que ce soit des taches, je vais revenir à ces formes-là. J'avais fait un dessin il y a quelques années de ça, qui est d'ailleurs sur le catalogue qui est ici d'ailleurs. C'est un dessin qui m'a pris 4 mois à faire, donc c'est un dessin très grand format. Mmh. Et j'ai fait une série où je travaillais très très lentement, et je pense que l'imprégnation des formes, des feuilles, des végétaux est très forte. Donc voilà. Et c'est mon univers, et maintenant c'est un jeu d'improvisation, peut-être parfois de danse des éléments, il y a beaucoup de choses qui arrivent à bouger, il y a parfois du vent dans les branches ou des choses comme ça. Voilà.
On pourra le mettre en ligne peut-être, hein. Celui-là peut-être, il s'appelle Automne, il est de 2011, c'est de l'encre de Chine sur papier Japon, et il fait effectivement 97 cm sur 134 cm. Et il est très fouillé, très détaillé.
C'est
très
beau volume quoi, 1 mètre sur 1 mètre, c'est ça?
C'est pas un volume, mais c'est un bel espace.
Un bel espace, voilà, ça, je veux dire, c'est pas une vignette. Enfin voilà. Moi, je voulais réagir une seconde. Nous parlions de Henri Matisse. C'était plus ou moins le sujet de l'émission la semaine dernière. Et exposition qui se poursuit, qui se continue jusqu'au lundi 6 mars. Il y a deux semaines, nous recevions Evelyne Postic et qui disait, je crois, hein, Gérald, corrige-moi si je me trompe, que ça lui était venu un peu tard, la peinture, son goût. Elle parlait d'une boîte qui lui avait été offerte. Pas tant la boîte de peinture offerte, mais plutôt mes aventures conjugales, quoi. Enfin voilà, des choses comme ça. Et c'était plutôt, je crois, assez tardivement, vers la trentaine, qu'elle s'était portée, qu'elle s'était dirigée vers les arts. Vous, Laurent, vous dites que ça vient vraiment très jeune, hein, c'est ça? C'est quoi, école maternelle où vous dessinez et le goût vous vient? Parce que moi, j'aimerais également vous questionner sur le végétal. Pourquoi la végétation?
Alors oui, alors ça fait deux questions, mais c'est bien, mais très très bien. Pour répondre à la première, oui, le goût du dessin, il arrive très très vite. Après, il est métamorphosé aussi par rapport à la vie de l'adolescent, de la vie du collège, où là je me suis mis plus à m'intéresser à des formes plus narratives, comme la bande dessinée, où je me suis fait une sorte de culture graphique en lisant beaucoup d'auteurs de BD, voilà, beaucoup de choses qui m'ont assez passionné.
Europe ou Amérique?
Alors, pas beaucoup comics, assez peu, plutôt des choses franco-belges, et puis parfois aussi quelques, des Italiens, des Argentins, bon, je pense à...
Minos et Sampaio.
Oui, exactement, voilà, je vois qu'on...
Minos et Sampaio.
Nous avons les mêmes références avec Gérald. Bon, bien sûr, Pratt, qui est un magicien, voilà, plein de choses, et puis aussi de la bande dessinée comique, j'ai copié par exemple des couvertures de Marcel Gottlieb qui nous a d'ailleurs quitté récemment. Ah oui. qui était un immense dessinateur, voilà. Donc après, voilà, ce goût du dessin s'est un peu transformé en fonction des âges, de la maturité et jusqu'à la fac. La deuxième question, c'était le goût du paysage, c'est ça?
De la végétation,
la prédilection du végétal, ouais, comme motif.
Alors disons que, pour élargir un peu, effectivement, il y a un goût du paysage qui arrive pendant mes études d'art plastique. J'ai souvenir de certains modules, notamment sur le portrait, où j'ai pas trouvé. Je parvenais à faire des choses, mais j'ai pas trouvé un centre d'intérêt qui m'a permis d'aller très loin. Alors que dans le paysage, j'ai réussi vraiment à me plonger dedans et à trouver effectivement plein de possibilités, plein de choses, quoi. Liées à l'imaginaire, liées aussi à une étude parfois sur le motif, le fait de... Pendant des années, j'ai pris mon carnet, je suis allé dehors, j'ai pris mon bloc d'aquarelle ou mes crayons, et puis il faut l'attraper, ce paysage, et c'est quelque chose qui est très compliqué, mais passionnant. Et au début, on en prend toujours trop, et quand le temps vient, on fait des choix.
Et est-ce que c'est lié au fait que le paysage soit finalement très vaste et beaucoup plus vaste qu'un simple visage où il y a peut-être moins de choses à trouver? Dans le paysage, il y a beaucoup de choses, c'est très dense.
Moi, je sais pas pourquoi. Ça, je saurais pas répondre. Je sais qu'il y a des gens qui sont de formidables portraitistes, qui font des choses magnifiques. Et pour eux, c'est ça qui les emmène, cette petite machine qui leur permet je crois que c'est Deleuze qui parlait de la machine désirante, là, ce petit moteur qui tourne en soi, qui fait que, on a envie de faire ça. Mais alors, ça, on sait pas trop pourquoi. C'est compliqué de répondre à cette question.
C'est peut-être plus simple de synthétiser un visage et d'avoir une idée précise sur ce qu'on veut faire au niveau d'un visage que sur un paysage où c'est peut-être plus vaste, il y a peut-être plus de...
Ben, peut-être.
Plus d'éléments, oui.
Plus d'éléments. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a... Oui, il y a plus d'éléments, oui. C'est bien possible, oui.
L'imaginaire est peut-être plus vaste.
Oui, oui.
Et rhizomatique.
Voilà.
On parlait de Deleuze, c'est quand même que du rhizome, le travail de Laurent Caragueusian. On sent l'influence de la faculté de Saint-Étienne.
Oui, alors il y a des choses effectivement. Alors il y a le côté effectivement qui pousse de tous les côtés. Il y a l'aspect effectivement végétal. Je pense que petit à petit, c'est ce qui m'a intéressé. C'est que la ligne, elle pousse comme une branche, comme une brindille, la tache, elle pousse comme un groupe de feuilles, et tout ça finalement fait presque voisiner ce genre de pratiques avec des pratiques abstraites quasiment.
Alors moi je pensais d'ailleurs, ça fait quelques années que j'ai vu votre travail dans quelques expositions, en 2015 à la Foire du Dessin de Lyon, Et puis j'avais vu ça, ces cartons, ça m'avait vraiment attrapé l'œil. Et j'ai pensé, alors il y a peut-être des points communs, mais vous allez me le dire, j'ai pensé à un autre artiste qui est vieux. Mais je pense qu'il y a des points communs, malgré la différence de, peut-être dans le réalisme. Je pensais à Simon Entaille, en fait. Pour des histoires de plis, de feuilletés, d'alternance de valeurs noires-blanches. Voilà. Le dessin qu'on a ici, il y a un petit côté Entaille. Enfin, je trouve, je ne sais pas quelles sont les influences, les liens.
Oui. Ah, moi, j'aime beaucoup le travail de Simon Entaille. Alors, comme un petit peu d'une autre manière un peu différente, le travail aussi de Pierre Soulages. Après, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Après, c'est des gens qui s'inscrivent dans une pratique affirmée de l'abstraction. Mmh. Que je voilà, dont je ne peux pas faire vraiment partie, même si depuis 2 ans je fais un salon qui s'appelle à Paris, qui s'appelle Salon Réalité Nouvelle, qui se trouve sur les pratiques de l'abstraction. Alors j'ai conscience que je suis un peu au bord des choses, quoi. Je suis au bord d'une abstraction, mais malgré tout, l'identification des formes reste toujours là. On a toujours possibilité d'aller trouver des feuillages, des branchages.
C'est même d'aller chercher, je dirais, en contemplant vos œuvres, qui est stimulant, quoi. C'est ça qu'on a envie de faire. C'est quand on est devant un de vos dessins, alors soit une encre. Je remarque qu'il n'y a plus de couleurs. Hein. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout des valeurs, des noirs et blancs. Je ne sais pas si vous êtes coloriste, on en parlera après. Mais on se perd dans ce motif. On est dans les broussailles, on a envie de débroussailler tout ça. Comme disait Paul Klee, on broute la surface, comme la vache pâture, quoi.
Gérald, je crois que tu empiètes sur la deuxième partie d'émission. Là, on va essayer d'évoquer
pour faire une pause musicale.
Exactement, une pause musicale pour ensuite laisser un peu à notre invité le temps de reprendre son souffle et puis donc aborder plus précisément quelques œuvres. Je crois avoir entendu parler d'une date. On peut tout de suite peut-être le dire. Le samedi 11 février, pas très très loin, Chazelles-sur-Lyon. Je crois que des gens très bien y sont même nés. Il y a des gens qui y habitent, qui ont leur atelier.
Il y a un musée du chapeau.
Inauguration, c'est ça, Laurent, le 11 février.
J'y suis depuis assez peu de temps et je propose une inauguration de mon atelier avec l'exposition d'une petite sélection d'œuvres.
Voilà. Nous allons en reparler plus en détail une fois que nous aurons entendu de Aerosmith le titre Living on the Edge. Non, je sais pas, vivre sur le côté, vous disiez à l'instant, être sur le bord des choses. Non, on n'a pas d'Aerosmith sur nous, on a plutôt du Shostakovich à la symphonie numéro 10, enregistré par le chef Alexander Rabary à la tête du BRT Philharmonic Orchestra de Bruxelles. C'est donc on va écouter plus précisément l'Allegro, voilà, deuxième mouvement de cette symphonie numéro 10. Et puis ensuite, nous reprenons avec Laurent Karagözyan. Il faudrait peut-être épeler ce nom, mais tous les renseignements se trouvent sur le blog de Spectaculaire, comme d'habitude. Il y a un lien vers son site, et puis on précisera tout, enfin éventuellement tout à l'heure, on épellera. Voilà. Pour l'instant, c'est pause musicale, Shostakovich, symphonie numéro 10, deuxième mouvement. Puis on continue, 102 de la bande FM, radiocanu.org, et c'est très bien comme ça. We'll be right back. Eh bien, ça claquait.
Ça déménage.
Ça déménageait. Laurent, pourquoi Laurent Caragueusian? Pourquoi ce choix de cette symphonie numéro 10? Je crois qu'il y en a une qui sera donnée à l'auditorium. Je vais essayer de retrouver ça. C'est plutôt la 5, me semble-t-il. C'est pas tout de suite. Ce sera mars ou avril. Cette dixième, elle vous plaît? Elle vous parle?
Oui, alors, oui. Je trouve que c'est très étonnant. Ça a un petit côté énervé que j'aime bien. Quand on est un peu fatigué et qu'il faut trouver de l'énergie, j'écoute ça ou parfois Nirvana, pourquoi pas. Donc j'ai des goûts très éclectiques en fait, voilà.
Nous recevons aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, Laurent Caragueusian, artiste peintre, mais photographe aussi, j'ai cru comprendre un peu. Mais vous n'exposez pas?
Non.
Vous n'exposez pas, mais c'est pour vous, pour pratiquer, pour préparer les dessins?
Oui, je ne suis pas du tout photographe en fait, je suis même plutôt un assez mauvais photographe.
Mais et vous prenez des photos néanmoins?
Alors je me sers de photos parfois, moins maintenant, mais... il y a quelques temps, je me servais de photos pour effectivement pour construire certains projets de dessin ou de peinture. Mais je suis un assez mauvais photographe en fait, même si je pense qu'on peut essayer de faire des bons dessins à partir de mauvaises photos. Hein. Hitchcock faisait bien des bons films avec de mauvais romans.
En feuilletant tous vos catalogues, là, il y en a des autoproduits, il y en a de Réalité Nouvelle 2016, il y a aussi le catalogue de Lyon Art Paper de cette année, Palais de Bondy.
Oui, oui.
Avec tout un tas de bons, des très bons dessinateurs, hein, 30-40 dessinateurs, dont on a reçu de certains invités d'ailleurs, hein, comme par hasard. Voilà. Et je remarque quand même que vous avez tendance à travailler par série, c'est vrai, ça, comment vous procédez?
Alors. Oui, effectivement, ça correspond parfois à des impulsions, parfois des matériaux. Alors des fois plutôt le papier, des fois plutôt la toile, la nature même du papier. Oui, effectivement. Puis des périodes aussi. Je pense que ça correspond aussi. Ça peut correspondre à des périodes de la vie. Oui, c'est juste. Oui.
Vous faites de l'encre, de l'acrylique, essentiellement?
Alors je travaille. Je suis assez nomade au niveau des techniques de dessin. Je travaille à l'encre, oui. Parfois, je travaille à la gouache également, comme sur cette série, que j'ai apporté ici. Je travaille aussi parfois, effectivement, à l'acrylique. Alors là, après, l'acrylique, ça permet. Je fabrique mes couleurs, en fait. J'utilise certains liants acryliques, certains pigments, voilà, pour trouver des matières, des matités. Je mélange aussi parfois avec certains sables pour avoir effectivement certains effets de matière. Et je cherche quand même un noir qui est assez mat et assez profond. J'essaye. C'est très long,
vous
en fait.
Vous travaillez essentiellement en noir et blanc. Vous n'utilisez pas de couleurs, généralement?
Alors, depuis 2011-2010, j'ai commencé tout un travail autour du noir et blanc.
Okay.
Mais en fait, actuellement, je suis en train de reprendre des choses en couleur.
D'accord.
Voilà. Donc là encore, c'est il n'y a pas de principe de.
Ouais.
Ce qui m'intéressait dans le noir et blanc, c'était jouer sur des contrastes optimum, donc pas de demi-teinte, je dirais un côté très contrasté, et puis après jouer sur des sortes d'illusions d'optique. J'ai une amie qui fait de la sculpture, un jour sur une expo, elle m'a dit: toi, t'es un embrouilleur visuel. Et j'aimais bien cette idée-là, parce que c'est l'idée que le blanc parfois va passer devant, après il va passer devant devant le noir, et parfois ce sera le contraire. Et qu'au bout d'un moment, si on observe, j'aimerais que celui qui va regarder, il sache plus tout à fait où il en est, qu'il pense saisir au début en disant: ah oui, j'ai compris, c'était des branchages, des feuillages, et puis un second regard, se dire: mais où je suis? Voilà. C'est ce que j'essaye de faire.
Et ça marche, parce que ça marche même sur les petits formats du catalogue, qui sont quand même des reproductions réduites. C'est vrai que les choses s'inversent, on ne sait jamais où on est perdu. Du coup, on perd le motif, qui a une dimension quand même très réaliste, on va dire, presque photographique parfois, quasi hyper réaliste photographique. Et en même temps, on est complètement noyé par ces alternances de noir et de blanc assez violents qu'on retrouve. On parlait de Munoz Sampaio, et puis aujourd'hui, chez Marc-Antoine Mathieu, on les retrouverait. Ces contrastes hyper forts à couper au couteau, et du coup cet embrouillamini visuel qui plonge le spectateur dans ce doute là et qui se balade dans ces formats, on retrouve dans les titres aussi, catastrophe optique, Alors, je vais énoncer les titres pour poser ma question. D'abord, j'aime bien lire les titres des œuvres que j'ai soulevées.
D'accord.
Alors, chute, hein, au pluriel, décalage au pluriel, chaos, mars 2015, sans titre 2015, glissement de terrain, bifurcation, catastrophe optique, parallèle avec le signe parallèle, déchirure au pluriel, sans titre. Et fracture. Les titres viennent après. Les titres peuvent parfois porter une série ou produire un geste.
Les titres viennent souvent après. Alors, après, c'est sûrement par nécessité de donner des titres, parce que si à chaque fois on marque sans titre, comme font parfois certains artistes.
En plus, on est un sans titre.
Sans
ça devient pénible.
J'en ai fait un. Mais comme je l'ai fait une fois.
C'est ça, hein.
Je pouvais pas le refaire. Donc il a fallu que je trouve d'autres idées.
Mais en même temps, ça peut être gênant de pas donner de titre et de en donner un guide trop parfois la lecture d'une œuvre. Mais en même temps, ça peut être bien aussi. Ça l'ouvre ou ça peut la fermer.
Alors, j'essaye de trouver des titres qui soient pas trop narratifs. Même si parfois, peut-être que je tombe dans ce piège-là. Certains peintres aussi numérotent leur toile. J'avais pensé faire ça, mais je suis pas assez rigoureux. Et puis peut-être que je suis peut-être plus littéraire que scientifique. Donc manipuler des chiffres, ça me convient pas toujours très bien. Voilà. Donc, mais ça vient plutôt après, en fait. Blague à part, ça vient plutôt après. Le titre vient plutôt après. Voilà.
Mais en même temps, c'est plus logique de mettre le titre après. Peut-être que le mettre avant, ça. Peut-être qu'au final, ça pourrait vous contraindre à faire quelque chose. Et peut-être que le fait de le mettre après, enfin, voilà, une fois que vous avez fait ce que vous avez fait, vous arrivez plus facilement à trouver peut-être.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la liberté.
Ouais, sur la liberté, effectivement.
Absolument, oui. Très juste.
Puis se produit des choses intéressantes. J'ai glissement de terrain sous le nez. Là, on dirait que c'est une vue aérienne, en fait, d'un coin de bois. C'est à une certaine hauteur, mais on ne sait plus vraiment si on est dessus, dessous, si c'est le spectateur qui a pris un point de vue en plongée, ou alors si c'est le terrain, justement, lui-même qui se déplace ou qui est mouvant. C'est basé sur des obliques, donc ça fonctionne, quoi. Le rapport du titre à l'image.
Mmh. Oui. Effectivement, moi c'était donc sur cette série-là, je m'amusais encore à prendre. Alors je partais de photos à ce moment-là et je m'amusais de partir de photocopies très contrastées et je faisais des montages de morceaux de photocopies qui me servaient un peu de maquette de départ, de point de départ pour ma toile. Et effectivement, du coup, ce qui m'intéressait, c'était qu'on sache plus très bien où on était. Est-ce qu'on est dessus, dessous? L'idée est venue un jour, je me baladais en forêt et j'ai levé les yeux et je me suis dit, mais là, il y a, à chaque fois qu'on lève les yeux et qu'on voit le rapport contrasté entre la couverture des arbres et puis le ciel, parce qu'en général, effectivement, la vision est assez contrastée parce que la luminosité, je fais des effets de contre-jour. Là, je me suis dit, bah, à chaque fois qu'on regarde, on lève les yeux au ciel, il y aura un tableau à faire à chaque fois. Mmh. Tellement c'est riche, tellement les formes dentelées qui se détachent, ou éventuellement les branches, vont donner tout un tas d'informations, peut-être pas une géométrie, mais une cartographie qui va permettre à l'imagination effectivement de se
développer.
De se développer, tout à fait.
Ouais, je crois, Gérald, qu'on a vraiment affaire à un artiste, parce que Laurent, enfin, tout de même, la richesse dont vous parlez, est-elle absolument dans le paysage ou n'est-elle pas plutôt dans votre œil? Est-ce que c'est pas... Parce que il me semble que tout un chacun pourrait peut-être regarder, là je suis effectivement sur votre site et je vois cette phrase, il me suffit de lever la tête pour contempler ces trouées de ciel qui percent à travers les feuillages. C'est ce que vous évoquez à l'instant, donc je suppose que c'est vraiment quelque chose qui vous tient très, tout à fait à cœur, qui est très important pour vous, mais cette trouée de ciel qui permet enfin du moins de voir les feuillages de manière contrastée, parce que c'est ce que vous développez ensuite. Est-ce que d'autres
tout
personnes
le monde
ne diraient pas ouais bon, voilà quoi, on aperçoit le ciel et puis c'est tout quoi, enfin sans non plus zut, c'est un peu dommage là, je prends peut-être un ton un peu moqueur ou péjoratif alors que c'est pas tout à fait ce que je veux faire, mais est-ce que on peut ne pas être sensible à cette esthétique alors que vous ben manifestement vous l'êtes?
Oui, alors là, c'est possible que des gens ne soient pas du tout sensibles à ça. Moi, quand j'avais exposé il y a quelque temps, j'avais rencontré un monsieur qui était garde forestier. Et effectivement, c'était une belle rencontre parce que je pense que c'est quelqu'un qui était très très sensible à ça, qui aurait pas pu le traduire de la même manière, mais lui, son action, elle n'était pas du même ordre, bien sûr, mais il avait aussi ce rapport à la forêt, ce rapport à l'arbre, et l'échange était très fructueux, et ce qu'il voyait dans ce que je proposais, dans mes tableaux, ça se rapprochait de sa sensibilité, et en fait, je me suis dit, ça c'est intéressant, parce que on arrive à traduire, parce que c'est ma façon de... Voilà, c'est mes outils, les outils du dessin, du dessinateur, du peintre. On arrive à traduire une sensibilité, et après, se dire qu'on peut la communiquer à d'autres, c'est extrêmement encourageant, et puis c'est aussi ce qui donne envie de continuer, c'est ça. C'est se dire, ça a touché quelqu'un.
Ah oui, oui.
Et après, effectivement, Alors, ceux-là, je les rencontre, ces gens-là, ceux qui ne sont pas du tout sensibles, peut-être qu'ils doivent tailler la zone, ils passent à 10 000 km de moi, et ceux-là, je ne les rencontre pas.
Mais attention, voilà, moi, je ne faisais que parler de cette inspiration avoir, parce que sinon, les œuvres, c'est intéressant, on peut peut-être voir chacun différentes choses.
Là, Gérard, c'est le regardeur qui fait le tableau, n'oublions jamais ça.
Et depuis l'endroit où je suis, avec la myopie que j'ai, moi, j'ai le sentiment que ce que tu as entre les mains, Gérald, ce sont presque des œuvres de Pollock avec du dripping.
On parlait de Oliver tout à l'heure, tu fais bien d'y repenser parce que je crois que c'est Clément Greenberg qui a appliqué ça. C'est Oliver à l'œuvre de Pollock.
Oui, tout à fait.
Puisqu'il retaillait, il dépassait avec ses grandes drippings au-delà des limites du cadre.
Ce n'est pas du tout une technique que vous avez. Non, vous ne peignez pas comme ça. C'est pas, vous ne faites pas couler, ce ne sont pas des jets de peinture avec des pinceaux.
Non, c'est pas les mêmes gestes, je pense.
Non, du tout.
Mais quelque chose plutôt de l'orfèvrerie, hérité de la tradition de Dürer, ou du dessin renaissant classique, non ?
Il y a un geste qui est relativement précis, enfin exigeant, précis, mais finalement, ça m'importe pas tellement que ça apparaisse dans le travail, en fait. Mais j'aimerais bien, même à la limite, que ça n'apparaisse pas, ce côté. Enfin,
ça sent pas la sueur. Hein.
J'aimerais bien. J'aimerais. Après, c'est ça. J'avais vu un jour un reportage. Il y a des années de ça, mais ça m'avait beaucoup intéressé d'un peintre qui fait des choses très intéressantes. Il s'appelle Richard Texier. Et à un moment donné, on le voyait dans son atelier avec ses tableaux. C'est quelqu'un qui fait des formats qui sont gigantesques. Et il disait, j'aimerais que ma peinture donne l'impression d'être faite comme ça en claquant des doigts. Et moi, ça m'avait quand même bien interrogé, cette histoire. Alors, je ne sais pas si un jour j'arriverai à ça, mais j'aimerais bien donner l'impression, effectivement, ou comme dit Gérald, que ça ne sente pas sûr, ou qu'on oublie le travail. C'est ça. On n'a pas à penser au travail quand on regarde tout ça. Ça c'est pour moi le travail, mais pas question, pour les autres.
La question horripilante, alors vous avez mis combien de temps pour en arriver là et pour faire ça ?
C'est ça. Alors après, oui, bien sûr, c'est forcément du travail, mais c'est peut-être pas si important de savoir combien on met de temps. Parfois, on peut aller très très vite sur quelque chose et que ça fonctionne, et parfois on peut passer des heures et de longues heures et de longs mois sur un travail qui ne marchera jamais. Et ça m'arrive, évidemment. Comme pour beaucoup d'artistes, on s'est fait partie du quotidien. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se construisent aussi dans des impossibilités.
Vous parlez de travail et de choses qui peuvent sembler un peu négatives à l'instant, là, une impossibilité, des choses comme ça. Et pourtant, tout à l'heure, vous avez dit « je me suis amusé pour cette série à faire », et vous avez même repris ce terme « je me suis amusé ». Il y a quand même du plaisir un peu, non, dans ce que vous faites.
Oui, mais c'est pour ça qu'on... Enfin, je pense, c'est comme ça qu'on arrive à dégager le jeu, parce qu'on a aussi pointé des impossibilités. Je pense que c'est pas incompatible. Qu'à un moment donné, on sait que
ça
si
peut
on...
faire baisser les bras, non ? Enfin, du moins, si on constate qu'on ne peut pas faire quelque chose, on peut... Je vous interromps pas, je vous en prie.
Non, mais c'est une question très intéressante. Justement, je pense que c'est dans ce qu'on va pas pouvoir faire qu'on va dégager ce qui est nécessaire. Je pense que c'est impossible en fait de tricher à un moment donné. C'est-à-dire que on peut avoir envie de s'embarquer parfois sur des projets, mais s'ils sont pas en rapport avec une émotion, avec une sensation présente, on les loupe ceux-là. Et à l'inverse, si on est vraiment en accord avec le moment présent, ce qu'on est en train de faire et effectivement attentif à ce qu'on fait, à ce moment-là, on a des chances d'arriver à quelque chose.
Et est-ce que les contraintes, finalement, elles poussent pas à avoir plus même de créativité entre guillemets. Est-ce que le fait de se dire peut-être que ça je peux pas le faire,
ça te parle ça.
Ça vous pousse pas peut-être à aller peut-être plus loin dans ce que, oui, ce à quoi vous auriez peut-être pensé à la base et...
Oui, 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 tout à fait. Mais oui, j'en suis convaincu.
La contrainte qui libère. Hein,
oui, oui,
l'hypo, tout ça.
Et d'ailleurs, je dirais, pour enchaîner avec le texte que j'ai sous le nez du site de Laurent Caragosian, notre invité depuis 14h, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure pour finir de déployer toutes ces problématiques passionnantes. Donc, c'est stimulant, puisque cela est extrêmement stimulant même. Je cite, « Je suis dans les mêmes dispositions que si j'assemblais les pièces d'un puzzle dont j'ignore tout du rendu final. » On revient à cette idée de prévoir ce qu'on va faire ou pas et laisser place au hasard, à l'accident, aux matériaux comme langage ou aux gestes. Ainsi, les formes subissent selon des situations différentes, déformation, déploiement, compression, glissement, raccord, décalage, fusion. Je travaille lentement, les formes s'agglomèrent entre elles sans repentir. » Donc on voit pas de traces de changement, les repentir. Alors le noir gagne progressivement du terrain sur son étendue blanche. L'encre ou la peinture viennent nourrir le papier ou la toile qui enregistre petit à petit, au fil des mois et des saisons, la trace de sensation retrouvée. La logique de la sensation retrouve l'origine du paysage cézannien.
Oui.
Petite pause, peut-être, parce que en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas tricher. Mais alors, est-ce que ça s'impose d'écouter Alain Bachung qui chante sur l'album Fantaisie Militaire
Malax ou le deuxième
La nuit, je mens. On ne va pas pouvoir ainsi. Qu'est-ce que nous écoutons pour cette fin d'émission?
Un tube, pour une fois qu'on passe un tube dans cette émission.
Alors,
un vrai tube, je veux dire.
La nuit, je mens de cet album Fantaisie Militaire. Et puis après, je ne sais pas, on essaiera peut-être de marquer quand même un court instant pour faire ensuite écouter quelques extraits de ce qui se passe non loin d'ici sur la scène de l'opéra Jeannot Bucher.
Oui. Et on fera une petite annonce pour samedi aussi.
Nous avons pu avoir un extrait de la, enfin même l'enregistrement de la générale. Je souhaiterais faire écouter deux courts extraits. Je pensais tout à l'heure enchaîner. En fait, non, je vais pas enchaîner parce que si on met tout de suite Audrey Bonnet avec les chœurs de l'opéra qui chantent, ça va être un peu étrange. L'annugement. Et puis nous continuerons ensuite. 10 minutes, tu as dit, non, un peu plus. Et puis de toute façon,
oui,
il n'y a pas le musée canu. Mais non, il faut pas dépasser. Ce n'est pas beau de dépasser.
Mais non,
c'est pas beau. Alain Bachung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station Bellière. Tu t'es pas fait prier, j'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Accaparé seulement, accaparé. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques.
des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho?
Ça, Gérald, c'était ton choix.
Fantasy, non, pas du tout. Les trois choix musicaux qu'on a écoutés étaient ceux de Laurent.
Mais c'est ton album. C'est ton CD, non?
C'est moi qui l'ai amené parce que je l'ai, évidemment.
Bon, c'est très bien. Dernière ligne droite de fin d'émission pour, avec notre invité Laurent Caragueusian. Mais donc, juste, Laurent, il faudra nous permettre ça quelques instants. C'est de faire quelques petites annonces, compte rendu. Moi, là, ici, je pourrais faire écouter donc, quelques extraits de cet opéra Jeanne au bûcher qui est donné encore cette semaine. Et ça se termine ce vendredi 3 février à l'opéra sur la scène principale. Audrey Bonnet est sur scène. Audrey Bonnet est absolument magnifique, prodigieuse, géniale. Il y a même ses initiales qui sont indiquées sur un rideau qui se baisse. A, B, A, Audrey, B, Bonnet. Elle est assez stupéfiante. C'est donc encore donné ce jeudi 2 février et le vendredi 3, le lendemain à 20h. C'est une vraie performance de cette actrice, de cette comédienne sur scène. Il y a aussi Denis Podalides, qu'on va d'ailleurs entendre. Voilà, il lit quelques mots. Et puis dans la fosse, c'est encore une fois de plus l'orchestre absolument brillant de l'Opéra de Lyon. Les chœurs sont également brillants. Kazushi Ono, pour sa dernière production, est très fort. Mais le problème, c'est Romeo Castellucci qui fait la mise en scène, parce que tout ce que j'ai annoncé, c'est ça, il y a un truc qui ne prend pas, moi, il me semble.
Audrey Bonnet, le seul bémol qu'on pourrait dire, j'en ai parlé avec d'autres gens qui l'ont vu aussi, et je l'ai vu aussi, tu l'as vu.
Ce sont deux spectacles différents.
Je ne suis pas si radical que toi. Non. C'est intéressant, il y a un parti pris iconoclaste, il a un univers très personnel, c'était pas facile de pas se casser les dents sur un mythe pareil, tellement controversé, tellement récupéré, pas toujours dans le bon sens du terme, tellement chargé, qu'il a réussi quand même à faire un truc bien. Il disait lui-même qu'il a été très impressionné par le Dreyer de Bresson, le film. Voilà, que ça l'a marqué. Et bon, si on peut reprocher un peu une mise en route un peu longue.
Moi, j'ai perdu 10 minutes pour commencer.
Ouais, c'est un peu longuet au début, ça pourrait être raccourci. Il y a un crescendo quand même assez phénoménal. Et c'est des parties des prix de mise en scène qui sont quand même très forts. Et minimaliste, et bon, c'est porté de toute façon par cette Audrey Bonnet en question, qui est quand même phénoménale.
Quelques extraits, on écoute donc, ça il y a un peu de bruit, c'est un extrait, cela nous provient de la générale donnée à l'opéra, il y a de cela, je suppose, 10 ou 15 jours. Les chœurs chantent avec Denis Podalides qui intervient, frère Dominique, et puis Audrey Bonnet aussi, je souhaiterais faire écouter deux petits extraits, et puis après, j'annoncerai une dernière production de Kazushi Ono, son ultime, son au revoir, son adieu à la scène de Lyon.
La rage au cœur et les yeux au fond.
Si vous souhaitez en écouter davantage, auditeurs, il s'agit de quelques extraits de cette production Jeanne au bûcher, un opéra d'Arthur Neugier et de Paul Claudel pour ce qui est du livret, c'est de la mise en scène. Le massacre en scène est de Romeo Castellucci. Ça a commencé le 21 janvier, ça se termine ce 3 février. Vendredi 3, c'est à 20h. Jeudi 2, la veille, c'est donc l'avant-dernière. Et si vous souhaitez, auditeur, dire au revoir à Kazushi Ono, c'est intéressant cette fin de semaine, là, à partir de demain. Mahler, Gustave Mahler est à l'honneur à Lyon et il y a la troisième symphonie qui va être donnée tout d'abord à Lyon, dans un premier temps, à l'auditorium, je veux dire, par l'Orchestre National de Lyon, dirigé par David Zinman. C'est donné ce jeudi 2 février à 20h ainsi que samedi 4 à 18h. Et puis la première symphonie sera donnée dimanche à 16h. Première symphonie de Gustave Mahler et Adieu de Kazushi Ono, le chef de l'Opéra de Lyon depuis presque 10 ans, un petit peu moins. Il s'en va, il laisse la place à Daniele Rustioni qui sera là à partir de la saison prochaine. Et voilà, donc la première elle est très très bien. J'avais quelques extraits éventuellement à faire entendre, mais puisqu'on a entendu juste Shostakovich, on va pas faire trop de musique classique ou de symphonie.
Gérald, on va complètement changer de style puisque on avait déjà écouté lors de cette émission les compositions d'une pianiste, musicienne, compositrice, enseignante de musique et professeure de yoga. Beaucoup de casquettes différentes, qui a une actualité très chargée ce samedi. Voilà, elle va venir un jour, on va trouver un créneau pour qu'elle vienne. J'ai son album qui s'appelle C'est le moment, on va écouter La valse du soudeur. C'est un clip que vous pouvez aussi, de 2 minutes 20, regarder sur internet, réalisé par Denis Couvet, studio lesboîtesnoires.com.
Cet album, Gérald, l'album C'est le moment.
Eh ben, il faut se rendre samedi.
La valse
du soudeur, donc un clip qu'on peut voir aussi sur internet. Paul Cornet fait aussi de la musique brésilienne, pianiste, compositeur, etc. Alors ce samedi, si vous tenez à vous pouvez aller voir l'album qu'elle donnera en concert. Donc c'est ce samedi 4 février à la médiathèque du Bachu, hein, vous savez, juste à Place du 11 novembre, Lyon 8e, à côté de la Maison de la Danse. Donc c'est une après-midi autour du piano avec des ateliers participatifs et un concert. Les ateliers sont gratuits. Il y aura un concert piano solo avec donc Paul Cornet, avec sa présentation de l'album C'est le moment dont on vient d'écouter la valse du soudeur et des improvisations de Pierre Fontaine. Il y aura deux ateliers d'expression au piano entièrement gratuits pour des pianistes de tout niveau et des non-pianistes, sans théorie ni technique. C'est sérieux ? Non, mais c'est musical, ludique et inventif. En fait, elle a concocté une sorte de jeu. Alors, je sais pas ce que c'est, je vais y aller, moi, à 14h, voir ce que ça donne. Donc, seul ou à deux, pour déclencher l'envie de jouer, l'envie d'écouter, l'envie de s'exprimer, c'est un moment de détente qui incite à découvrir par soi-même des gestes musicaux au piano. C'est aussi un atelier tout public, intergénérationnel, car l'imagination n'a pas d'âge. À 14h, donc, un atelier expression et impro piano intergénérationnel de 4 à 104 ans. Alors, elle a séparé les ados volontairement. À 15h, atelier expression et impro piano pour les ados entre 12 et 16 ans. À 16h30, il y aura un concert, et vous pourrez, je pense, vous procurer cet album, qui est excellent, qu'on peut écouter en boucle. Je pense que ça plairait beaucoup à Laurent, pour s'en faire une musique d'ambiance pour peindre. Concert, entrée libre, mais réservation conseillée au 06 85 05 01 52 et les ateliers sur inscription au 04 78 78 12 12. Alors ça, on le mettra sur le blog, j'espère, Christophe, avant samedi, pour que vous puissiez vous y inscrire. Et alors, pour les habitants de Pélussin, qu'on appelle les comment déjà, dans le Pila. Comment ils s'appellent? Les Pélussinois? Les Pélussinois, on va dire.
Probablement.
Alors, vous avez écouté la patte de pianiste de Paul Cornet à l'instant, et comme par hasard, évidemment, c'est très cohérent. Elle va faire un ciné-concert, elle va accompagner donc des films de Charlot. Il y a un grand événement qui se passe au Ciné Pila à Pélussin, donc dimanche 5 février à 19h, donc c'est le lendemain. Ça dure une heure, et Paul, eh ben, va jouer, hein, comme on faisait dans la grande tradition du cinéma muet, et va improviser avec son talent sur des films de Charlie, les trois meilleurs cours de Chaplin, réunis en version restaurée, avec un tarif unique pour tous à 5 euros. Il y a Les Migrants, Charlot Patine et Charlot Policeman.
Auditeur, à 15h01, ce n'est pas le générique Neuilly Blues que vous écoutez en ce moment du Blues des Canuts de Pascal. L'émission n'a pas lieu aujourd'hui, alors on lui vole quelques minutes. Gérald, Pascal, si tu nous écoutes, permets cela. Enfin, vraiment, on va te prendre encore 2-3 minutes. Le temps de demander à Laurent Caragueusian de nous donner plus ou moins un mot de la fin. On ne l'a pas assez développé tout à l'heure.
Synthèse.
Vous ouvrez samedi prochain, enfin disons, vous ouvrez, si, certes, au public, le samedi 11 février, à Chazelles-sur-Lyon. Votre atelier, c'est ça? Enfin, inauguration, c'est... Ce sera quoi? Qu'est-ce que ça va être?
Ben, disons que depuis peu de temps, j'ai emménagé donc à la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon. C'est une ancienne usine de chapeaux qui a été entièrement rénovée depuis 3-4 ans et qui propose donc tout un développement autour de la fabrication du chapeau. Donc il y a une partie musée qui est très importante et qui est vraiment très très bien faite. Qui permet donc tout un développement sur l'histoire du chapeau, sa fabrication, puisque c'est le poil de lapin qui fabriquait, à partir du poil de lapin, il faisait tout un tas de chapeaux extraordinaires.
Même entre 40 et 45 Alors, mauvais goût, blague de très mauvais goût.
Je vous encourage à aller voir ce musée. Et également, dans ce projet, tout le site a été développé des ateliers de créateurs. Voilà, avec plusieurs créateurs qui travaillent et qui peuvent également ouvrir leurs ateliers pour les visiteurs du musée. Donc voilà, donc je vous encourage.
Dans le vôtre.
Voilà, donc inauguration de mon atelier.
Et des autres
samedi.
Aussi, ce sera tout le lieu.
Alors
sera
les autres seront, les autres aussi, je pense, seront présents, seront sur place, seront présents. Donc il sera possible de les voir également.
Combien d'artistes en tout autour de ce musée?
Alors actuellement, on est 5 à être installés sur ce site. Voilà, 5, certains travaillent plutôt en volume, la terre, la céramique, la peinture, voilà.
Artistes, artisans aussi, céramique.
Voilà, au début l'idée était d'ouvrir plutôt au métier d'art, et puis il y a eu un élargissement au niveau de tout ce qui est également artiste, art plastique, ce qui finalement est bien pour tout le monde, donc c'est un lieu très vivant. On organise également chaque année un salon de créateurs, qui est vraiment un bel événement qui date depuis qui est là depuis 4 ans qu'on a nommé d'ailleurs Salon d'Art Actuel, où on montre également plein de choses, des peintres, des graveurs, des sculpteurs, beaucoup de choses, des gens qui font des installations également sur le site. Donc il y a plein de choses à venir voir. C'est toujours le premier week-end de décembre, donc on a de plus en plus de monde chaque année. Ça devient un événement qui est de belle qualité, un bel événement. Voilà.
Et ça va partir de quelle heure?
Oui, pour le samedi 11, exactement.
Ouais. Alors, samedi 11, c'est à partir de 14h. Voilà, d'accord. Je vais ouvrir mon atelier à partir de 14h. Et puis, ben voilà, je serai là jusqu'à la soirée. Voilà.
Donc, Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. Mm-hmm. Voilà, dans la
Loire.
Pourquoi pas? Mais on peut s'y rendre depuis Lyon, si ça se fait.
Il faut 50 km, il faut une heure.
Une petite heure.
Une heure. Pour
non loin de Chevrières, je crois. C'est également un autre clin d'œil que je fais. Je ne sais pas si c'est un auditeur, une personne que je connais. Gérald, oui.
On a parlé de Pélussin, on a parlé de Chazelles-sur-Lyon. On va revenir avant de quitter l'émission, quand même, à Lyon. Parce que après cette journée magnifique passée au Bachu avec Paul Cornet à des ateliers, avec le concert
samedi 4 février.
C'est le moment, ce samedi 4 février à la Friche Lamartine, Lyon 3e, qui est connu de certains auditeurs sans doute, à 20h, il y a de la poésie sonore et dont certains individus passionnants que nous avons déjà reçus ici. Il y a un programme très bien, par exemple « Qu'est-ce que t'as dans le ventre ?» de Judith Le Sûr, « L'intervalle » de Laurence Loutre-Barbier, ancienne émission. Nous avons « Inondation ville » de Béatrice Machet, qui est venue ici nous parler de sa poésie, de sa traduction des Indiens. Il y aura Enregistrement de l'extrême de Patrick Dubost, etc. Je fais pas toute la liste parce qu'il y a Pauline Catrino, il y a beaucoup de voilà, on va en parler. Donc c'est à la Friche Lamartine, 30 rue Lamartine, faut bien arriver à l'heure, bus C13 au métro Grange Blanche. Ne pas arriver en retard car il se peut que les portes soient alors fermées. C'est entre 3 et 5 euros, vous pouvez adhérer à l'association Friche Lamartine à 1 euro et vous payez entre 3 et 5, prix libre. Donc c'est le collectif Abi Abo. Évidemment, la soirée sera présentée par notre cher ami Pierre Gonzalez, Pierre Isner, venu ici faire une émission de poésie sonore, qui fera le présentateur de cette émission. La diffusion son sera assurée par Patrick Dubost, accueil à l'entrée par Isabelle Paquet, diffusion vidéo Patrick Sapin. Et c'est le collectif préparation-installation Abi Abo, le collectif de Pierre Gonzalez. Voilà, pour les amoureux de la poésie sonore.
Générique samedi 4 février, 20h.
15h06, il est temps d'achever. Moi, j'avais encore de toutes petites annonces à faire sur les scènes dramatiques, les scènes de théâtre de Lyon. Célestin, TNP, ainsi que Théâtre de la Croix-Rousse, plusieurs pièces qui sont à venir et des pièces dont on va parler. Oui, oui. Normalement, mercredi prochain, pour être avec nous, une des comédiennes, non pas Romane Bohringer, qui est dans une pièce de Stefano Massini, peut-être Rachida Brakni pour une autre pièce de Stefano Massini. Ça se passe au Célestin. C'est sur la scène principale, la scène des Célestines. Il y a également au TNP la pièce La tragédie du roi Christophe, qui est donnée jusqu'au 12 février. Et puis enfin, au Théâtre de la Croix-Rousse, commence aujourd'hui Plus léger que l'air, une création, une pièce de Federico Jeanmaire, qui est en fait un texte, plutôt un roman, mise en scène de Jean Lacornerie avec Elisabeth Macoco, qui devrait être présente mercredi 8 février ou bien le 15 février. Donc voilà, a priori, après les arts plastiques dernièrement, Henri Matisse et Laurent Caragueusian, nous aurions parlé de théâtre avant d'arriver à la prochaine pause que nous ferons, Gérald. Mais fin février, début mars, on fera un peu relâche. Auditeur.
J'ai oublié, vendredi 3, vous avez un vernissage aussi à la galerie Jean-Louis Mandon avec des anciens invités artistes.
Merci beaucoup, Laurent.
Yves Garcia Gallo et Didier Madrose.
Merci, Gérald. Bonne émission à tout le monde.
Allez, à la prochaine, parce que je voudrais encore continuer.
C'est moi qui vous remercie.
Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu.
Merci.
Il n'y a pas pour l'instant de Blues et Canu, mais il y a encore beaucoup de choses à venir. On n'arrête pas le prog à 17h, ainsi que le Canu Info à 19h et au milieu. La prime team du méga combi à 18h. Enfin voilà, je crois avoir tout dit. Restez à l'écoute quoi qu'il en soit. 102.2 de la bande FM, c'est très très bien. Ciao tout le monde. Bon après-midi. Bye.